Entre 2005 et 2009, Cyril Prévost s'est régulièrement rendu sur le site des anciennes nefs du Bigeon, sur l'île de Nantes, pour y recueillir du son, de la vidéo, de la photo, des témoignages de visiteurs, de ce lieu devenu l'un des spots favoris des graffeurs de Nantes. Ce site était en sursis puisque le projet culturel La Fabrique de l'île de Nantes était programmé à cet endroit à la rentrée 2011. Cyril a donc imaginé un temps faire de ce lieu un musée à ciel ouvert, projet transformé finalement en récit photographique. Il nous parle de son intérêt pour ce site chargé d'histoire et de son envie de laisser une trace via son récit photographique baptisé Musée à ciel ouvert.
Nous sommes le 4 mai 2005. Le temps est superbe. Mon camarade Titus est là avec sa caméra. On va pouvoir faire des images des graphes sur le site des anciennes nefs du Bigeon à Nantes. Enfin.
Alors, il se trouve que les habitants nantais s'en souviennent que les nefs et le blockhaus, cet espace-là, a reçu pendant plusieurs années de nombreux artistes et des graffeurs en particulier. Et je me suis pris de passion pour ce site par rapport aux graphes. Et à partir de cet objet d'observation, j'ai pris un certain nombre de photographies. J'ai fait des captations photos, des petites captations vidéo, des captations son sur l'ensemble du site en disant « Tiens, mais si avant la démolition de ce site-là, si on pouvait à un moment donné valoriser le travail de graphe qui a été mené pendant plus de 10 ans ici, le temps d'une semaine, on fait visiter le site à des gens, les habitants en particulier, pour dire ben voilà ce qu'il y a près de chez vous, une espèce de musée à ciel ouvert en quelque sorte, regardez ce qui se passe. » Et donc l'idée était d'un moment donné de proposer carrément à la ville de Nantes de faire un projet d'ouverture du site, sécurisation, choisir des graphes avec des graffeurs avec qui j'étais en contact, et de faire une visite pratiquement muséale. Apparition du permis de démolir. L'idée qui est en cours s'abandonne immédiatement à la vue de ce permis de démolir, puisque l'arrêté est posé, est affiché, et du coup, le projet de visite s'effondre. Et je me dis, non, c'est pas possible, je veux garder trace de ce site-là. Et donc, pendant plusieurs mois, je fais régulièrement, je continue à prendre des photos, des petites séquences vidéo, et je commence à faire des fouilles archéologiques sur le site. Fouille archéologique qui consiste à récupérer des morceaux, des objets qui traînent là, et au fur et à mesure de la démolition qui commence à s'entamer, de carrément récupérer des morceaux de graphes, des choses, des bombes, etc. Et j'accumule tout un tas d'objets chez moi de ce site. L'idée première, c'était de faire après, du coup, enfin c'est l'idée seconde, de faire carrément une exposition en disant, ben voilà, on va montrer des photos, des séquences filmées de vidéos, et des objets récupérés sur le site. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai dû me débarrasser de la plupart des objets, parce que ça encombrait trop, enfin bon voilà, c'était compliqué. Et du coup, j'ai dit, bon, ben maintenant j'ai de la matière, qu'est-ce que je vais faire? En parallèle de ces questions, je me posais justement la question de ce qu'avait été ce site, son histoire. Et le mouvement qui m'intéressait alors, c'était de dire, le site des nefs et du blockhaus ont accueilli la création pendant des années, c'était une friche artistique. Il y avait des graffeurs bien sûr, mais il y avait des danseurs, des musiciens, des photographes, c'était un site très actif. Et on détruit ce site pour en faire quelque chose, un site touristique et culturel. Et c'était ce mouvement de « on détruit quelque chose qui existe ». Alors il faut prendre du recul, parce que bien sûr c'était une friche, et c'était crade, et c'était punk, et c'était bien sûr. Mais on détruit ce qui est en train de se passer pour reconstruire quelque chose qui devient à son tour l'écrin de la création, c'est ce que je dis dans le film. Donc du coup il y a aussi une pensée qui en parallèle de mes fouilles archéologiques, etc., il y a une pensée qui commence à se mettre en place par rapport à la fonction même du monument, du bâtiment, d'un espace urbain. Et la solution finale, c'est de dire, je vais raconter ça, je vais raconter ce cheminement, donc qui dure de 2005 jusqu'à 2009, et je vais le traduire en un film, un récit documentaire, vidéo et photographique.
Un choc, Après avoir pris connaissance que la démolition allait devenir réalité, mon musée à ciel ouvert allait bel et bien disparaître. Après les deux séquences de tournage que nous avions réalisées, je prolongeais le travail par une observation constante du lieu et de son évolution. Des centaines d'images, des dizaines d'objets et des idées accumulées au fil de la disparition des graphes.
Qu'est-ce que ça raconte en fait, tout ce que tu as pu récupérer, qu'est-ce que tu en as retiré toi de l'histoire qui était racontée dans les différents éléments que tu as pu ramasser?
Mais il y a des objets très très symboliques que j'ai ramassés. Là aussi on le retrouve dans le film, je dis le premier acte archéologique que j'ai posé, c'est de ramasser un jouet qui était un tractopelle et qui a été pour moi à la fois le symbole du démarrage de la destruction du site, donc c'est violent une destruction, et donc de la mutation de ce site là et aussi en parallèle d'un premier acte archéologique que je n'avais pas mesuré. J'ai ramassé cet objet comme on ramasse de temps en temps quelque chose, voilà. Il n'était pas formalisé, il n'était pas même intellectualisé comme geste. C'était un geste brut de pomme, direct. Et puis, au fur et à mesure, je dis, pourquoi pas ramasser des bouts de graphes dispersés? Un exemple très concret, il y avait des graphes sur des vitres. Les vitres étaient explosées avec la destruction. Donc j'ai ramassé des bouts de verre en me disant, peut-être que je pourrais reconstituer, à l'instar des vases antiques, des vases grecs par exemple, de reconstituer les graphes et les présenter de la sorte. Voilà, donc les objets me parlaient toujours, jusqu'à d'ailleurs mon dernier acte archéologique, qui était un acte archéologique qui relève du pillage, tel que les Anglais dans les pyramides égyptiennes. J'ai essayé de récupérer le bloc de dérivation électrique du blocos. Et je n'ai pas pu, c'est une des séquences du film, je la raconte, et j'ai pas pu récupérer, j'ai pas pu piller finalement le blocos. Et je suis revenu quelques semaines après sur le site, la destruction avait cours encore. Et là, j'arrive devant le blocos pour faire une des dernières séquences que j'ai fait d'ailleurs photographique sur les lieux. Et là, il y a le bloc de dérivation au sol qui est là, qui me tend les bras. Je le récupère, je l'emmène à la maison, je l'ai toujours aujourd'hui.
Pour quelle raison est-ce que tu as eu envie de faire ça? Enfin, je veux dire, parce que tu fréquentais le blocos peut-être toi-même en tant que photographe ou en tant que graffeur peut-être?
Non, personnellement, j'ai eu aucune pratique artistique sur le site. Je connaissais bien sûr des relations, des copains qui travaillaient là. Je ne suis pas du tout du milieu du graphe, mais j'ai rencontré des graffeurs sur site. Ce qui m'intéressait, c'était la création graphique et picturale du graphe. J'étais pas spécialement amateur, pas spécialiste non plus, mais ça m'intéressait parce que je trouvais qu'il y avait en termes de création des choses extrêmement intéressantes. Et je trouvais dommage que ce lieu ne soit pas connu du grand public, ou ignoré, ou parfois même rejeté, alors qu'en plus il y avait une connexion avec l'histoire de la navale à Nantes, faut quand même pas l'oublier. Et ce site qui, du coup, allait disparaître avec un projet culturel et touristique d'envergure sur Nantes. Et je trouvais que c'était dommage de louper cette époque de vie du bâtiment. Parce que on est, et c'est normal historiquement, très fortement imprégné de l'histoire des nefs, en particulier par rapport à l'histoire navale nantaise, et c'est important. Et on était à l'époque très imprégné du futur de l'histoire des nefs. L'arrivée de l'éléphant, probablement une salle de spectacle, c'était pas validé à l'époque, mais bon, voilà, il y avait déjà des projets. Et je me dis, cette époque de vie du monument, et c'est exactement le terme que j'emploie dans le film, balayée d'un coup de revers de main, et personne n'en parlerait. Là, il y a une trace, il y a une archive aujourd'hui, maintenant, avec ce film-là.
Les nefs furent d'abord construites pour la production de bateaux. Ce lieu de la production industrielle navale n'a pas pu résister aux mutations économiques, et les luttes ouvrières ne purent en empêcher l'abandon. Les artistes se sont alors appropriés le site, comme espace et support de création. Aussi, des dizaines de graffeurs ont investi ce lieu en friche pendant des années. Ils ne furent pas les seuls. Des photographes, des comédiens, des danseurs ont investi cet espace pour différents projets. Ce site fut donc une véritable friche artistique, où les expressions esthétiques ont été nombreuses, différentes, diffuses, sans revendication, sans publicité.
Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que ce film, je ne veux pas le garder à la maison et le diffuser auprès des copains. C'était que ce film-là prenne, se matérialise finalement dans sa diffusion sur le site. Donc j'ai été voir l'équipe de Trampolino qui bien apprécié le travail et a dit bah écoute oui on peut le diffuser et en plus nous on te fait une autre proposition, on travaille sur le territoire de l'île de Nantes, on travaille avec les habitants de l'île de Nantes, donc ils m'ont proposé de laisser libre cours à l'imagination de musiciens amateurs en particulier qui vont recréer une bande originale du film qui sera jouée en direct dans le cadre d'un vidéoconcert. Du coup, bien sûr, j'ai un attachement à ce film-là, mais c'est quelque chose dont je me détache. C'est-à-dire, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas documentariste, je suis un artiste amateur et un citoyen observateur. Et ça s'arrête là. Donc du coup, l'affection que je porte à ce travail-là m'autorise à laisser libre de droit pratiquement son utilisation. Et au contraire, s'il y a d'autres projets qui peuvent venir se greffer dessus, etc., tant mieux. Ce n'est pas un objet que je veux de A à Z, intouchable, incorruptible, pas du tout. C'est, si ça peut être le support pour faire connaître cette vie, qu'on n'oublie pas ce qu'a été aussi ce site-là, après les chantiers du Bigeon et avant la fabrique.
Reportage, mixage, Magali Grolier.